Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Je suis Rosa Burstein et vous écoutez Les mecs que je veux ken. Je suis actuellement en rodage de mon tout nouveau spectacle, c'est complet à Paris au Cartel, mais vous pouvez me retrouver prochainement en tournée à Montpellier, Lille, Bruxelles, La Roche-sur-Yon, Ergué-Gabéric, Aix-les-Bains, Istres, Décines et Saint-Étienne. Tous les liens pour réserver sont sur mon site internet. À bientôt.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Les mecs que je veux ken. Chers auditeurs, chères auditrices, mes sorcières, mes orphées. Je commence par une intro très courte, mais je vous raconte plus ma life en outro à la fin de l'épisode. Là, je veux tout de suite vous mettre dans le bain avec notre invité Mathieu Longat, humoriste, scénariste, réalisateur, que vous connaissez peut-être grâce à sa série Narvalo sur Canal+, son spectacle État des gueux qu'il joue au République, ou encore sa chaîne YouTube Bonjour Tristesse. Mathieu Longat est un grand artiste, totalement à part, que beaucoup d'entre vous me réclament depuis longtemps. Je suis très heureuse de l'avoir dans le podcast. Lui est persuadé que sa venue me fera perdre des gens, je crois pas parmi les auditeurs et auditrices, et ça m'étonnerait sur Insta, mais la période est tendue, il y a tellement de souffrance. Mathieu est extrêmement engagé, mais il nous raconte dans cet épisode pourquoi il a fait le choix de l'art plutôt que celui de la politique, ou en tout cas comment il veut faire passer des messages via l'art. Normalement, le son de l'épisode est nickel, sauf au moment où je lui lis le poème. Là, j'ai encore eu un bug, un message erreur sur mon enregistreur, alors que... c'était une nouvelle carte SD, je comprends pas, je sais pas, faut que je formate à chaque fois. Heureusement, j'avais le backup via le dictaphone de l'iPhone, que j'utilise donc juste pour ce moment, et ça devrait pas trop vous choquer, le reste est clean. Mathieu est flamboyant, vous verrez, je vous souhaite une écoute passionnée.
Alors, t'as beaucoup de fans, de meufs?
Sur Insta un peu plus.
C'est ouf.
C'est mon réseau le plus féminisé, de loin. Mais sur Facebook, ouais. C'est marrant, ça inverse complètement, c'est 60-40 hommes-femmes sur Facebook, et 40-60, et à mon avis ça tire encore. Sur Insta.
Bah ouais, il y a un pote de qui a dit ouais, ma petite sœur est amoureuse de lui et tout. Bah, un cœur de cible, hein.
Ouais, écoute, parfait. Tu perdras 3-4 têtes à cause de moi quand même. Mais ce sera des mauvaises têtes, c'est des têtes qui t'auront embêté pour d'autres trucs à un autre moment.
Je pense pas. Alors, je t'ai écrit un petit poème, Mathieu.
C'est trop mignon, ça me gêne.
T'inquiète. Cher Mathieu. Merci d'être là aujourd'hui, alors que tu n'es pas un fan de promo. Mais là, je ne suis pas une journaliste, je suis une camarade. On a tous les deux participé à l'émission 69 pour Kian et Navo. J'avais déjà découvert la dernière saison de ta série géniale Narvalo sur Canal. Et pour finir, je suis venue voir ton spectacle République et j'ai adoré. Les deux fois, j'ai ri à haute voix, au théâtre et devant ma télé. Et j'ai réfléchi. Pour moi, ton spectacle parle de la convergence des luttes, de nous réunir dans nos différences grâce au bon sens de tes vannes arguments coup de poing qui ne peuvent que laisser chaos mettre d'accord. Dans Narvalo, l'univers poétique est dingue. J'ai souvent eu des montées d'angoisse au fur et à mesure des récits. Les dialogues sont hyper bien écrits, la direction d'acteur est folle. On s'identifie tellement, moi particulièrement au personnage qui n'arrive pas à passer son permis et veut tuer l'examinateur. J'ai été touchée par Kader, son autodestruction. Tu dénonces l'état dans lequel se trouve l'hôpital, tu nous fais haïr la petite bureaucratie d'aéroport, tu vantes les vertus de l'ennui. J'aimerais pour commencer te poser la même question que celle des spectateurs quand tu sors de scène.
Pourquoi tu te lances pas en politique, Mathieu ? J'ai remarqué que tu demandais ça.
Ouais, c'est vrai qu'on me le dit. Alors pourquoi je me lance pas en politique ? C'est lié à plein de choses. Et moi, je crois plus beaucoup à la politique. Et j'essaie de. Moi, je trouve que placer des espoirs et d'être déçu, bah, c'est fatigant dans la vie et il faut se préserver. Et du coup, je me suis positionné assez naturellement en tant qu'artiste. Parce que pour moi, l'art, c'est vain par définition. Donc si à la fin, ça servait à rien, bah, c'est pas grave. C'était de l'art, c'est l'amour du geste, l'art. Et du coup, il n'y a pas de frustration de ce type. Et en vrai, il y avait un tel espace laissé par les artistes à notre époque dans le fait d'avoir une densité politique dans de l'art ou dans de l'humour que quelque part, enfin du moins au moment où je suis de ma vie, peut-être qu'à 45-50 ans je penserais autrement.
Ah.
Mais au moment où je suis de ma vie, j'ai l'impression que je suis plus utile en faisant de la politique dans l'art que si je mettais de l'art dans la politique.
Tu voudrais pas
faire partie de la NUPES.
Non, pas là. Voilà, c'est pas ceux qui m'énervent le plus, mais c'est un peu comme... en haut, j'ai l'impression qu'ils sont tous un petit peu corrompus. Je suis pas dans le tous pourri à l'échelle locale, etc. Mais j'ai l'impression que pour avoir une ambition politique nationale, il faut devenir une merde. Et puis voilà, tandis que l'art, c'est 20 par définition.
Ouais,
s'il n'y a pas de résultat, c'est pas grave.
Tu crois pas qu'il faut devenir humoriste, il faut aussi être ambitieux et devenir une merde.
Bah, si on en croit la majorité de nos congénères, oui. Mais si on en croit nous, par exemple, et d'autres exemples quand même qui est résiduel, apparemment, c'est possible de rester un humain à peu près normal.
Ouais, c'est vrai. Non, à la NUPES, Ruffin, moi, c'est mon espoir. J'aimerais bien l'avoir dans le podcast.
Je sais, je comprends. C'est vrai que sur le paysage actuel, c'est vraiment pas le plus détestable. Et ouais. Il a une forme d'intégrité. Moi, j'ai des petits blocages sur tous ceux qui, pour moi, tous ceux qui ont un certain niveau de responsabilité en ce moment aux Insoumis, ils savent ce qui s'est passé au niveau du détournement de fonds de campagne de 2017. Et du coup, j'ai un gros blocage là-dessus, moi. Mais pour ce qui est du paysage, ouais, Ruffin, de ce que j'en vois, c'est quelqu'un qui est sincèrement investi, qui a un vrai rapport au peuple et qui est véritablement ancré dans les problématiques concrètes du peuple. Voilà, je trouve ric-rac, voire à la ramasse sur les questions de violence policière ou sur les banlieues, etc.
Ah ouais, là, il n'était pas au taquet?
Non, il est failli à côté de ses pompes, à mes yeux, sur tout ce qui est problématique populaire qui tient
à la banlieue.
Au citadin. Il a un aspect d'énormes compétences sur les zones rurales, mais je le trouve plus ric-rac sur l'urbain. Mais encore une fois, par rapport à ce qui se fait
actuellement... Faut lui envoyer Narvalo.
Ouais, je suis pas sûr que ça puisse guérir et que ça permette de faire l'éducation d'une vie, mais oui, je l'enverrai.
Il paraît que Narvalo, donc attends, la première, tu l'as projetée pour des prisonniers dans une prison, c'est ça?
Non, la saison 2, elle a été projetée pour des prisonniers au Baumettes. Et du coup, moi, quand je suis venu faire le débat, vu que j'avais fini de monter la saison 3 et qu'ils ont toujours tout après les autres, je trouvais que c'était un beau symbole de leur montrer les deux premiers épisodes de la saison 3 en exclusivité. Et c'était marrant parce qu'ils n'arrivaient pas à caler que même les acteurs, ils n'avaient pas vu, tu vois, les intervenants de l'association, ils ont dû y revenir 10 fois en disant, mais vous êtes les premiers. Les gens n'ont pas vu, il n'y a que lui et ses deux potes qu'on a vu là.
Ouais.
Donc, et c'était cool, c'était un très beau moment. Et en plus, voilà, ils avaient grave bouffé la saison 2, ils avaient kiffé, c'était intéressant. Et puis c'est toujours intéressant de voir, tu sais, parce qu'on projette plein de trucs sur les prisons et à quel point tu retrouves des différentes typologies de caractère, des gens, tu sens que c'est des vies qui ont basculé, tu vois, notamment des femmes, parce que pour une fois, c'était mixte, ce qui est assez rare, de pouvoir faire des événements mixtes en milieu carcéral. Et du coup, ouais, écoute, c'était très enrichissant, les échanges, ils ont été passionnants et j'espère que j'aurai l'occasion de le refaire, ça.
Moi, je veux que tu fasses un long métrage.
Moi aussi. Mais je veux que les riches, ils me donnent de l'argent et qu'ils me laissent libre. Ils aiment pas te donner de l'argent, ils aiment pas te laisser libre. Mais j'y travaille.
Ah ouais, c'est sûr. T'as un souffle, quoi. C'est vrai que c'est. Moi, j'aimerais pas que tu te lances en politique. Enfin, je pense que c'est l'art, c'est sûr, qui est ta force. Mais c'est intéressant parce que. Un artiste aussi engagé, ça court pas les rues, on le sait, quoi. Et ça a toujours été présent pour toi, l'engagement, ou c'est venu... Parce que déjà, 2017, c'est-à-dire que dès que t'as fait de l'impro, dès le début, dès ton lycée, tu mêlais déjà les deux?
Non, alors je viens d'un truc très politisé, je viens vraiment d'une famille très politisée, mais dans le sens où ça débattait beaucoup à table, etc. Et moi, j'étais plutôt le petit de la famille, quand il y avait des réunions de famille, qui allait monter avec les cousins jouer à la PlayStation, mais qui allait rester 20 minutes de plus avec les adultes pour les écouter s'énerver et tout ce que ça animait chez eux, ça m'a assez vite créé une curiosité.
Tu fais semblant d'être cool, mais t'es un vieux sage, quoi.
J'étais un vieux con quand j'étais petit, vraiment j'étais un peu vieux aussi. Je lisais le journal, les gens ils prenaient des photos de moi à la plage parce que je devais lire le Monde, tu sais, je sais pas, en CE1, et du coup on voyait pas mon corps derrière, et du coup sur la plage tu voyais juste des mains d'enfants avec un journal, et du coup les gens ils prenaient des photos. Et après, au niveau de non, c'est venu progressivement, mais moi je crois beaucoup qu'il faut aller chercher en soi, et c'est vrai que à l'échelle de ma vie, la sociologie de vie que j'ai eue, plein de choses, ça a fait que j'ai été confronté à des inégalités que subissaient d'autres gens, et en fait moi j'y vois pas un truc, je tire pas gloriole de faire de l'art engagé ou ancré dans quelque chose, parce qu'en vrai je trouve ça beaucoup plus courageux de monter sur scène et de parler de sa brosse à dents pendant une heure et demie ou de ses relations de couple.
C'est parce ironique,
que moi,
ça...
Non, premier degré, parce que moi ça me générerait une timidité tellement folle, c'est un peu comme Bonjour Tristesse, il y a un truc où à chaque fois je me dis que si les gens n'ont pas rigolé, faut qu'ils aient pu prendre quelque chose, et comme ça ça m'enlève un enjeu de rire, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc c'est vraiment me rassurer en fait et me dire c'est pas grave si c'est pas drôle, parce qu'au moins il y a un point de vue qui est tenu, les gens auront pu en tirer un jus intellectuel ou autre, mais c'est plus une manière de me dépaniquer, enfin je trouve faut être tellement courageux moi pour monter sur scène et dire ok aujourd'hui je suis drôle les frères, c'est sûr. Donc je subis quoi, moi je peux pas, jusqu'ici en tout cas je peux pas faire de l'art, tu vois Narvalo j'étais sûr que c'était pas du tout engagé en fait, 2 ans après en relisant je vois bien que l'ancrage naturaliste il fait que ça raconte quand même la vie, et que du coup il y a beaucoup de propos qui sont abordés en vrai.
Mais en fait, c'est engagé, intelligent, c'est complexe. C'est-à-dire que parfois, moi, il y a une forme d'humour peut-être engagé, mais qui me... peut-être me touche moins, c'est les gens qui veulent être applaudis, mais en fait qui cherchent dans une forme de narcissisme et de, au final de très politicienne, de j'ai la bonne parole, regardez comme ce que je dis c'est bien, regardez comme je suis du bon côté des gens, alors que je trouve vraiment virtuose dans ton spectacle, c'est que parfois on est en mode où est-ce qu'il va tu vois, et avec je biperai avec mon copain, tu vois, parfois on se donnait la main, on est devant oh 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 oh, et c'est marrant, t'as l'impression d'être sur des pistes de ski en slalom avec toi et tu prends des risques, quoi. Et dans Narvalo aussi, parce qu'en fait les personnages ils sont complexes, et c'est ça qui est aussi rare franchement dans le cinéma français sur la banlieue, parce qu'il y a eu tellement de réalisateurs misérabilistes où c'était un petit peu on les aime mais en fait on sensualise ces corps de personnes défavorisées, t'es en mode bah c'est très gênant, enfin tu vois.
Ouais, complètement, c'est les sur le traitement de la banlieue, je le trouve en général très gênant, mais je pense qu'ils ont un manque de connaissances et d'affection pour leur sujet, et voilà, moi j'ai une grande affection pour la banlieue, je l'ai déjà dit, mais je connais que des banlieusards heureux d'avoir grandi en banlieue, je dis pas qu'il n'y avait pas 1% de gens qui ont pas aimé, mais globalement c'est quand même assez dithyrambique les gens, le bonheur qu'ils ont eu de grandir en banlieue. Et du coup, puis moi j'ai un attachement sincère, et je sais que les personnalités sont complexes, qu'on peut être ça et ça à la fois. Et c'est vrai que je crois que d'avoir tout simplement une bienveillance pour le sujet. Et puis je suis un banlieusard, moi, ça veut dire qu'on m'aurait pas pardonné vraiment de faire une énième série qui fout la honte à la banlieue, ou qui est stigmatisante, ou qui raconte qu'on se fait chier, ou il aurait fallu venir sauver quelqu'un dans une cité et le faire quitter pour l'amener à Paris. Donc,
Les Misérables, t'en avais pensé quoi ?
J'ai pas aimé, moi, Les Misérables. J'aime pas le postulat de base du film, déjà.
Assez pro-flic au final.
De dire que les misérables, de dire que les jeunes de quartier sont des misérables au même titre que la BAC, déjà c'est pas vrai, parce que la BAC elle peut démissionner, personne ne lui a demandé d'être là, donc ils peuvent aller chercher un autre travail si ça leur plaît pas, tandis que les pauvres ils sont coincés dans leur pauvreté. Et voilà, et sinon il y a des trucs que j'ai pas compris, j'ai pas accroché.
Ouais. Mais donc t'étais politisé déjà enfant, c'est indiscret de te demander quel métier faisaient tes parents ?
Non, ma mère elle était prof de français et mon père il était ingénieur.
Ok, et donc ça parlait politique, genre les deux étaient PC ?
Non, pas du tout, moi, que des gens de droite. Ma mère prof de français de gauche, mais perdue dans un îlot longate de droite. après, il y avait des limites. Enfin, je sais que par exemple, Sarko, mon père, ça n'a pas été possible par rapport à la vulgarité qu'il véhiculait et la manière dont il a rabaissé le travail politique. Donc, il y avait des limites. Mais non, c'était plutôt de droite. Mais ça s'embrouillait pour des sujets absurdes. Je t'ai dit, ils parlaient du service militaire. Ils ne sont pas parlé pendant 5 ans entre frères, alors que je ne sais pas s'ils l'ont fait en plus. Donc, il y avait un truc d'enjeu de les discussions politiques font sortir les gens de leur gond chez moi, font qu'ils ne se parlent plus pendant des années. Donc, il y avait vraiment un truc d'enjeu. Et puis, il y a même je viens d'une famille bizarre, moi, les premiers livres, quoi. Enfin, du côté de mon père, on a tous des prénoms d'apôtres, personne n'est baptisé. Les premiers livres qu'on m'ait lus, c'est La Bible et les Misérables. On ne lisait pas Titif et je sais pas quoi, tu vois. C'était des grands 3 pages par soir pendant 6 mois, les histoires de mon père, quand on était en maternelle. Donc, je sais qu'il y a un truc d'ancrage culturel et politique français qui est arrivé tôt, quoi. Mais après, ça mord pas tout le monde pareil, parce que mon grand frère, par exemple, a eu du Poitreau, il est politisé, mais il est moins politisé que moi. Donc après, je sais pas, c'est aussi des croisements de vie ou de... je sais pas.
Et Longate, c'est de quelle origine ?
Je sais pas sûr, je crois que ça vient du Nord. Et on m'a dit il y a pas longtemps ce que ça voulait dire. Je me demande si ça veut pas dire grand terrain et tout. Et ça m'a fait rigoler parce que j'ai un pote qui s'appelle Boudbir.
Tu te rends compte,
ça
veut dire, bref. Ton nom veut dire propriétaire. Genre, c'est tellement paradoxal.
Non, grande terre, c'est pire. Grande terre, je crois, un truc comme ça. Je crois que c'était c'est pas un hectare, mais
grande
en fait,
terre foncière.
Je crois que c'est du Nord, mais je suis pas sûr.
Ok. Ouais, c'est marrant. Alors, donc ton frère, moins que toi, est-ce que tu penses que malgré ce terrain, il y a un truc, peut-être, genre à l'adolescence, qui t'aurait particulièrement sensibilisé à un truc, une injustice dont t'aurais été témoin
Alors, en première, du coup, je commence la socio parce que je fais un bac ES et je découvre le déterminisme social. En fait, tout simplement, je découvre les chiffres du déterminisme social et je me rends compte qu'en tant que fils de prof, il est impossible pour moi de rater ma vie. Et ça me fout des crises d'angoisse. Je me rends compte qu'en fait, que j'ai 7% de chance de rater ma vie. Je veux dire ce qu'on appelle rater sa vie professionnellement, quoi, vraiment.
C'est vrai.
Et en fait, ce truc-là, pas me traumatise, mais quelque part, et je rigole et j'exagère quand je dis ça, j'ai un peu passé tout le restant de ma scolarité et de ma vie à essayer de me saboter, voir si c'était impossible de rater. Et il faut croire que pour l'instant ça se passe plutôt bien. Au final, j'ai eu deux masters sans aller à l'école. Enfin, j'ai creusé le truc et ça marche, faut pas mentir en fait. C'est très dur de rater quand t'es dans ma construction sociologique. Et après, moi j'ai eu une bascule quand même parce que j'ai toujours traîné avec des noirs et des arabes, j'ai grandi avec des noirs et des arabes en banlieue. Mais quand je commence à jouer à trappe, à faire de l'improvisation théâtrale à trappe à 16 ans, je deviens vraiment le seul blanc de groupe de noirs et d'arabes de cité. Et là, je bouffe une bascule vis-à-vis de la police, parce qu'on commençait à se faire contrôler à l'époque. Mais là, je passe vraiment à 5 contrôles par jour, à des policiers qui pensent que je suis en train de me faire kidnapper pendant des contrôles.
Waouh!
À Assos, c'était trop marrant, mais c'était Assos, c'est particulier.
Assos,
ils m'ont mis à part et
tout.
Parce que
vous foutiez
avec des gens plus vieux, parce que j'étais à l'UT de Sceaux, moi, après le bac. Et en gros, ils étaient là et on était dehors, ils m'ont pris à part pendant le contrôle parce que je traînais avec des gens plus vieux et ils m'ont dit monsieur ça va, ils m'ont dit monsieur ça va, en gros le message c'était est-ce que t'es en train de te faire kidnapper, qu'est-ce qui se passe, et en gros voilà de vivre l'écart, tu vois, à l'échelle de ma vie maintenant je me suis peut-être fait contrôler 120 fois et seul en tant que blanc ça a dû m'arriver 4 fois quoi les chiffres, et des fois c'est parce que je fais des appels de phare pour dire qu'il y a les keufs et ils sont aussi devant, enfin bref, faut vraiment que j'y mette beaucoup de moi-même pour me faire contrôler, et donc ça a été une bascule sociologique assez importante de passer de voilà des pavillons à traîner en cité avec des noirs et des arabes et avoir la rudesse de la police à l'égard, l'injustice que ça traduisait. Et puis même, du coup, même socialement, plus globalement, à partir du moment où on prenait les transports en commun, la peur qu'on pouvait susciter juste par notre présence. Bref, ça m'a permis vraiment de sortir un peu d'une forme d'ethnocentrisme social qui a été assez enrichissant. Donc c'est plusieurs points comme ça dans ma vie, mais ces deux trucs-là, ils en ont fait partie de ma construction, c'est sûr. Puis j'ai pas dit, et je suis obligé d'avoir un mot quand même pour mes parents, parce que je pense que ça vient beaucoup de... Ouais. J'ai eu la chance de recevoir une très belle éducation. Ma mère, elle m'a toujours appris à aimer la différence, ou en tout cas à considérer tous les êtres humains par ce qu'ils sont et pas par leur apparence. Et c'est vrai, voilà, que ce soit d'être au contact avec des amis juifs ou avec des amis musulmans de leur culture, moi j'ai appris mille trucs et je suis vraiment dans un truc où, tu vois, je suis un piqueur, moi je viens piquer ce que je préfère dans, tu vois, dans les cultures, et je crois que c'est comme ça qu'on s'enrichit. Et voilà, il y a des gens qui se font absorber par une culture quand ils se mettent à traîner avec beaucoup de gens d'une culture. Moi, il y a ce truc-là d'en tirer ce qui me paraît pouvoir me rendre plus heureux, de laisser de côté les trucs qui vont clairement me tirer vers le bas intellectuellement ou humainement. Mais je crois beaucoup à l'enrichissement par le contact avec d'autres cultures, je crois. Et je pense qu'en plus, ça s'impose à toi. C'est pour ça que je suis très triste d'être des médias, je suis très triste des gens qui se referment sur eux-mêmes. Parce qu'en vrai, quand tu rencontres des gens, quand tu les fais communiquer, ça s'impose à toi, le fait que ça te fait du bien de te confronter à la différence, que ça t'enrichit, que tu te sens élevé intellectuellement. Donc, ouais, moi, je crois beaucoup au fait qu'il faut que les gens ils se rencontrent.
Ouais, grave. Et comment tu supportes le fait, donc toi qui viens justement de l'impro, d'un truc quand même collectif, à l'humour, tu vois, qui est le truc le plus individualiste au monde.
Ouais.
Genre, la bascule, elle s'est faite...
Moi, j'ai pas eu le choix, on a fait n'importe quoi. Moi, je voulais réussir en groupe, je voulais tellement réussir en groupe, parce que j'ai pas d'ambition, moi, à la base, donc réussir que pour moi-même, je m'en fous. Et puis, c'était marqué au lycée, j'avais lu que de toute manière, je pouvais pas rater. mais je voulais vraiment réussir en groupe. Après, nous, le groupe, voilà, on était des sacrés numéros, déjà, les mecs de l'impro. Donc après, quand on a commencé à jouer dans les cafés-théâtres à Paris, on a commencé à se professionnaliser un peu, là, quand j'avais 18 ans. Mais une fois, voilà, un soir de juillet 2006, il y avait un France-Brésil à la télévision. On ne s'est pas rendu à notre propre spectacle, ce qui a créé... On s'embrouillait déjà souvent, mais là, ça a fait exploser le groupe. Parce que certains se sont rendus au théâtre pour jouer. Et nous, on est certains à être restés chez nous à regarder France-Brésil sans première personne. Et il y avait du public. Et ils n'ont pas pu jouer. Et du coup, là, ça a un peu fait éclater le groupe. Et puis après, chacun a fait un peu sa vie. Parce que moi, j'avais 18 ans, mais la moyenne d'âge, elle était plus à 23 ans dans ce groupe. Et du coup, les gens, fallait qu'ils commencent à bosser, etc. Mais il y en a pas mal qui sont restés. Enfin, Laurie Perret, elle vient complètement de cette époque. Et elle fait de l'art. Issa Doumbia, il fait encore de l'art.
Ouais,
Arnaud de sa mère, c'était mon premier prof d'impro. Il fait encore de l'art. Donc,
ouais.
De déclic théâtre, là, il y a beaucoup de gens qui sont sortis au final.
Mais individuellement. C'était une troupe attrape.
Ouais, en fait, t'as Déclic Théâtre, c'est en fait dans le 78, il y a eu beaucoup d'impro grâce à Déclic Théâtre. C'est une compagnie qui organise un festival entre les collèges. Ils créent des groupes d'impro, ils entraînent les jeunes et les collèges s'affrontent. Et surtout, ils avaient une équipe qui s'appelait les juniors de trappe. Du coup, c'était les moins de 17 ans et qui avait gagné le championnat de France 2 fois d'affilée. Donc, il y avait un truc où on n'était pas payé et tout, mais c'était très professionnalisant. L'été, on faisait des résidences avec une compagnie qui faisait Cyrano de Bergerac dans un château, par exemple. Et en échange, on donnait des cours d'impro. Petit, on avait 2-3 entraînements par semaine, donc il y avait un truc, et puis il y avait un truc de maintenir un niveau, enfin non, moi j'allais dire j'ai jamais perdu un match, mais on a perdu le match de la finale de 2004, mais sinon tu vois, c'était agréable aussi, même socialement, ce que ça racontait, parce qu'on arrivait, on était les trappistes et tout, on foutait un peu le bordel et on arrivait au Chénet par exemple, et tout le monde nous regardait comme ça, et à la fin c'est le public qui vote et on gagnait les matchs, tu vois.
Ouais, donc t'as racontait... peut-être pas d'ambition, mais t'as l'esprit de compétition.
Ouais, je suis un sportif, moi j'aime pas être dernier en tout cas. je m'en fous souvent d'être premier, mais j'aime vraiment pas être dernier.
Est-ce que quand tu as des discussions justement avec les gens, tu veux gagner, tu veux avoir le dernier mot ?
Dans les discussions, moi ça me fait pas ça en fait, mais je sais que je peux donner cette impression. En fait, moi j'ai un rapport à la vérité, et du coup quand j'ai l'impression sincèrement que la vérité, je l'ai assez travaillée, assez malée intellectuellement pour en être sûr, je vais avoir du mal à laisser quelqu'un dire quelque chose qui me paraît faux sans réagir. Moi c'est plus ça que je vais être relou en débat et que ça peut faire des débats infinis. Après non, parce que je crois que tout est relatif, que la discussion ça enrichit. J'ai quand même peu de choses qui sont figées dans ma tête. Ce qui peut m'agacer, c'est des gens, tu sais, qui balancent des choses très expéditives sur des sujets que j'essaie de digérer intellectuellement depuis 15 ans, et là potentiellement je peux être un peu plus sec parce que ou ça peut moins m'intéresser. Mais sinon, en général, si je discute, c'est que je considère qu'on peut m'apprendre des choses sur le sujet. Donc,
Moi, je te trouve super modeste. C'est marrant, je trouve que la personnalité des humoristes, ça se voit aussi beaucoup à la sortie de leur spectacle. Enfin, tu vois, il y en a qui... où tu sens qu'ils aiment entendre des compliments ou parler d'eux-mêmes, où tu sens, et puis tu sens qu'ils vont direct regarder quels sont les pros qui sont venus ou qui étaient les artistes même dans la salle. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de ce qui se joue sur les secondes où l'artiste sort de scène, à qui il se rue pour serrer la main. Et alors toi, vraiment, mais en fait, tu discutes avec les gens, tu restes longtemps devant le théâtre, tu me fait un peu penser à John Malkovich, avec qui j'ai travaillé, qui m'a mis en scène, parce que lui, il était... en fait, si quelqu'un venait lui parler, il regardait dans les yeux et ça pouvait durer toute la soirée, en fait, j'imagine.
Ouais, c'est un problème aussi, hein. Ça agace beaucoup mes amis avec qui je dois boire des verres après. Parce qu'en plus, c'est un truc de goût du débat, donc très vite, comme je t'ai dit, ça va m'intéresser d'échanger, etc. Et j'ai la chance surtout d'avoir un public incroyable, qui n'est pas du tout intrusif au quotidien. Et du coup, cet espace-là, d'après le spectacle, il se fait de manière très naturelle. Des fois, on se retrouve avec trois groupes d'amis qui n'étaient pas ensemble, mais on est tous en train d'échanger. Et je trouve que c'est une belle manière aussi de clôturer le spectacle, parce que ça raconte un peu ça, mon spectacle. Et même à l'échelle, et ça me fait trop plaisir, les gens qui bossent au théâtre me disent note que mon public il est pas pareil, c'est trop marrant, les gens quand ils sortent, frère, ça se voit, ils se cherchent des yeux, ils ont envie de se parler. Et ça, je trouve ça a pas de prix, je suis trop fier de ça, le fait que en sortant de mon spectacle, les gens ont envie de se parler, d'aller boire des verres alors qu'ils se connaissent pas. On a déjà créé des mariages.
Waouh.
Je te jure, trop marrant.
Ouais, c'est fou. Et puis quand tu discutes avec toi, et quand, en fait, très rapidement, si on te parle de toi, genre, ça t'ennuie et tu pars sur un vrai sujet de profondeur. Enfin, tu vois,
je me rends pas compte de ça, mais peut-être inconsciemment.
T'en as certains qui sont là en mode, tu sens, allez, vas-y, parle-moi de moi. Comment je suis. Enfin, tu vois, et toi, c'est, je sais plus, direct, tu laisses assez peu de place à, je sais plus si c'était les gars de la sécurité de ton théâtre ou quoi, ou puis rapidement, t'es venu au sujet des manifestations ou de la police ou d'un truc, mais tu pars, et le gars vient de sortir de scène.
Non, je redémarre.
Et ouais, non, c'est chouette de garder cette curiosité qui peut-être parfois, tu vois, que je sais pas, parfois artistiquement on peut perdre et je trouve que c'est cool. Enfin, moi j'ai surtout vu des amis comédiens perdre un peu ça, tu vois. Je sais pas comment tu...
Si, j'entends. Si, beaucoup, la plupart des gens n'ont pas du tout des rapports normaux, mais ils ont aussi, pour certains, moi encore une fois, j'appuie, c'est le fait que j'ai un public vraiment très qualitatif. Je prends le métro, on me casse pas les couilles. Enfin, ils ont compris que je suis un peu un sauvage, ils respectent ça. Et puis en fait, je crois que je suis tellement normal, c'est comme en manif. Des fois, je fais des dingueries en manif, et je crois que les gens ils me filment pas parce qu'ils disent, mais c'est impossible que quelqu'un de connu agisse ainsi. Et ça me sauve le cul. Et avec mon public, c'est un peu la même chose, je te jure. Bref, il y a des scènes où je dis, mais comment ils ont pas connu.
J'ai envie de te surveiller quand même.
Il y a des trucs qui sortent des fois sur Twitter. Bref, mais il y a vraiment un truc de qualité du public où c'est mon public qui me permet de pouvoir continuer à agir normalement. Donc très souvent, c'est les artistes qui se mettent à avoir une posture hautaine où ils se prennent pour des autres alors qu'ils sont bref, t'as compris mon avis global sur l'art français. Mais des fois, ils sont vraiment tirés par le bas par leur public aussi, parce qu'au bout d'un moment, c'est des gogoles qui disent pas bonjour, qui disent pas s'il te plaît, qui tendent leurs bras en prenant une photo sans te dire bonjour, alors que t'as 2 grammes dans le sang, tu t'en viens vite à adopter une posture de pas forcément de supériorité, mais de mettre à distance pour ta santé mentale, quoi. Et moi, je peux pas me forcer à faire ça, c'est-à-dire que j'irai jamais tu vois, la plupart des photos je les accepte parce que j'ai la chance qu'on m'en demande assez peu, mais jamais je prendrai 1h30 à la sortie de mon spectacle pour faire 1h30 de photos parce qu'il faudrait me payer 100 000 euros pour que j'ai envie de faire ça de ma vie, parce que je suis artiste, pour pas me faire des trucs qui me font chier.
Et si on te paye 100 000 euros?
Je les fais pas.
Ah ouais, non, sérieux?
Non, ben parce que l'art, j'ai vraiment un espèce de pas de symbolique, mais j'ai vraiment un rapport à l'art et à la liberté qui est important, parce que j'ai toujours considéré que j'aurais pu faire d'autres choses, que j'aurais pu faire de l'argent beaucoup plus vite dans d'autres domaines que les domaines artistiques, et que du coup c'est un peu c'est un peu mon mantra sur l'art. C'est l'art, c'est ou librement ou rien, mais dès qu'il y a des obligations. Et puis je suis vraiment très timide, donc c'est un coup pour moi, les interactions avec des gens inconnus, de me sentir bête, faire un sourire de mariage tant que c'est à l'envie, je peux le faire à l'infini, mais je pourrais le faire 0 fois le jour où j'en aurais plus envie, quoi.
Et est-ce que ça te nourrit justement avec Narvalo, de faire aussi de l'écriture scénaristique et de passer à la direction d'acteur, c'est tout d'un coup la réal. Tu sais quoi la différence de kiff
Je suis quelqu'un qui aime. Alors, je suis un énorme fainéant, je déteste travailler, mais j'adore apprendre, vraiment. Et du coup, c'est toujours passionnant, là, que ce soit dans la musique, parce que je vais sortir un album ou avec Narvalo.
Ah ouais
D'arriver. Ouais.
Ah, je savais pas.
C'est vrai.
Mais non, mais c'est fou, ça sort quand
Vas-y, putain, il y a un mec qui est, pardon, désolé, j'ai pris dans le micro. Non, mais parce que j'ai un problème, je dois récupérer des rushs qui sont au Maroc et j'attends juste ces rushs pour sortir le premier clip, mais après,
bah, va y avoir un clip. C'est cool, tu m'aurais dit, j'étais le week-end dernier au Maroc.
Putain, ouais, non, mais là, on est sur un truc, faut y aller viril, là.
Ah, ok.
Enfin, faut trouver une solution, mais la diplomatie, de toute évidence, ne fonctionne pas.
Ah, merde.
Et du coup, après, normalement, je vais faire un clip par mois pendant un an. Ouais. Ils sont
mais
presque
c'est
prêts,
énorme. Les sons.
Ouais, c'est cool. Enfin, je vais faire un album, mais en fait, je suis signé depuis 2017. C'est entre le rap et la chanson française.
Wow.
J'essaie d'éviter le slam pour le bien-être de tous.
J'avoue, le slam, j'accroche pas trop. Le rap, c'est plus mon copain qui s'y connaît que moi. Mais alors, déjà que les fans de toi, mais alors en plus, si tu fais du rap, alors là, il faut plus que tu fasses du foot. Et là, genre, on va avoir un portrait
je
de.
Je viens du foot.
Ah ouais?
Non, mais j'ai jamais gagné ma vie en étant au foot. Non, j'ai été repéré sur une plage. Mais je t'enverrai 2-3 sons, comme ça,
ah
ils
ouais
pourront me donner un avis franc.
Ah
ils
bah
sont
ouais
prêts. J'ai ce degré de confiance en toi.
S'il te plaît, envoie. Mes résultats, oui. T'es un peu footeux ?
Je suis complètement foot. Quand j'étais petit, je ne faisais que m'intéresser à la politique et faire du foot. Ça représente 80% de ma vie d'enfant où je connaissais tous les gagnants de la Coupe du Monde. J'étais le jouet de mon grand frère et je jouais beaucoup, beaucoup, beaucoup au foot. Jusqu'à un jour, je jouais sur une plage à Saint-Jean-de-Mont. Et pendant un tournoi de plage, il y a un recruteur qui est venu qui m'a donné une carte en me disant : Je suis recruteur au PSG, tu viendras faire un entraînement. J'étais fan absolu du PSG. Je pleurais quand les matchs étaient annulés. Et mes parents me croyaient pas. Et finalement, du coup, c'était vrai. J'ai été faire l'entraînement, mais j'étais trop nul. Et j'ai vu dans les yeux de ma mère le soulagement quand le gars lui a dit il peut venir, mais qu'en équipe 2. Et du coup, elle savait que je n'irais pas faire 3 entraînements par semaine. Elle était tellement contente que je ne sois pas pris parce que c'est elle qui allait se taper les allers-retours à Saint-Germain-en-Laye 4 fois par semaine. Donc elle avait pas du tout, elle n'a jamais été poussée. Elle avait un rapport très pragmatique, mère. Elle disait oh là, je vais me taper 4 allers-retours à Saint-Germain par semaine. Donc elle était très heureuse que. Et après, j'ai arrêté, voilà, en gros, après 15 ans.
Et t'es toujours pour le PSG ?
Toujours, ouais.
Ouais.
Bah oui, on a trop souffert, les supporters du PSG. Il faut nous laisser, même si c'est.
Ouais.
Même si c'est pas le sport, le Qatar.
T'as vu Kylian, les gens sont durs avec lui.
Ils sont tellement durs avec lui. Mais les Français, on sait pas aimer.
Ils le font chier.
On sait pas aimer nos stars, les Français. Et surtout vu comment il est structuré à son âge, même intellectuellement, même en termes de positionnement politique, même en termes de positionnement contre les marques.
Laissez-le respirer 100 minutes.
Laissez-le,
il a pas le droit de sortir. On lui dit, ah ouais, il est sorti, c'est pour ça qu'on a perdu. Après Newcastle, il s'en est pris plein la gueule.
Je sais, moi je trouve la France très dure avec Kylian, mais la France très très dure en général avec ses élites sportives. Et on est le seul pays à faire ça, c'est-à-dire que ce soit.
Faites une statue de Kylian.
Il peut déjà la prendre sa statue.
Place
je suis
Kylian
d'accord
Mbappé.
Avec toi. Et on vit des trucs absurdes où tu sais où Karim Benzema qui a été un de nos meilleurs footballeurs pendant 10 ans, il est adulé et en France on lui crache dessus un jour sur deux. Ribéry, c'est passé exactement la même chose, c'est-à-dire que Ribéry mais en Allemagne à Munich ils peuvent lui faire une statue. Je me demande même s'ils l'ont pas fait d'ailleurs.
Et bon, après France, Neymar, c'est normal qu'on chie sur lui quand même.
C'est normal.
Il l'a un peu cherché.
Neymar il peut.
Oui, bah foot, merde, j'ai très très hâte d'écouter ton son. Et ça parle un peu de quoi, les chansons, alors
En fait, je fais de la musique, parce que déjà, c'est pour l'anecdote marrante, parce que j'ai vraiment pas d'histoire de Narvalo qui accompagne ma vie. En fait, l'album, je l'ai signé en 2017, avec un label qui s'appelle Capitol, chez Universal. Et du coup, il devait sortir en 2018. Mais ce n'est toujours pas arrivé. Mais du coup, cette année, ça arrive. Mais entre-temps, j'ai appris. Du coup, entre-temps, en vrai, c'est mieux que ça sorte maintenant.
Faut que tu
parce
trouves
que sur
5
ans, j'ai passé du temps en studio. Donc,
okay.
Et du coup, c'est toujours l'écriture moi, qui me pousse à changer de domaine artistique. Et je ne sais pas si ça se ressent. Mais en vrai, si tu regardes Narvalo, si tu regardes Bonjour Tristesse, ou même si tu viens voir mon spectacle, tu apprends beaucoup de moi via des anecdotes, via mon idéologie politique. Mais je suis quelqu'un d'excessivement pudique et je n'aime pas parler de moi, pas dans le sens
donc,
de fausse modestie.
D'amour.
Eh ben si, non, justement, j'allais y venir. La musique, ça m'intéresse parce que justement, ça me pète une barrière de pudeur à l'écriture.
Ok, cool.
Et du coup, ça va être beaucoup plus introspectif que les autres trucs que je fais. Donc, oui, si, ça parle beaucoup de mélancolie, ça parle d'amour, ça parle de mort, ça parle d'engagement, toujours un peu, ça parle de rien faire de sa vie.
Un petit peu dans ton spectacle d'amour, juste à un moment.
Un petit peu, c'est léger.
Tu dis juste les meufs qui n'ont pas de père, elles sont.
J'ai une blague gratuite au début du spectacle, complètement.
Mon son que t'as un peu honte au moment où tu l'as fait.
Oui, c'est ça qui fait que ça rentre.
C'est bizarre parce que c'est la seule blague. Tu balances des trucs sur les Roms, les Juifs, les Noirs, les Arabes. T'es mode ouais. Mais par contre, c'est la blague genre sur les meufs qui ont pas de père où t'es mode.
Parce que les filles qui ont grandi sans père sont susceptibles. Ce spectacle me l'a réappris alors que je l'avais déjà appris.
Ouais.
Et puis c'est une des rares blagues qui est un peu gratuite. Donc c'est pour ça aussi que je la modèle un peu différemment.
Ah si, tu parles un peu de féminisme.
Et je parle des rapports de communication,
ouais,
un peu, mais c'est pas via moi, ça va être via l'anecdote d'un pote. Ou...
Moi, je te trouve très féministe. En tout cas, tes personnages aussi dans Narvalo, enfin, tu vois, je trouve tes personnages de meufs, là, la nana qui veut récupérer son appart et tout, enfin, je sais pas, je les trouve puissantes et je trouve ça pas caricatural et l'actrice est super. C'est Marshall, bah, comment
c'est,
elle s'appelle?
C'est Zoé Marshall,
ouais.
Qui est très fort.
Ouais, elle est super, l'épisode est génial et il y a rien qui est. Enfin, je trouve le regard, le gaze moderne, quoi.
Bah, c'est gentil, je sais pas, je vais l'encadrer, je vais le mettre en boucle. Si ça se trouve, tu vas te retrouver au début d'une de mes chansons après une polémique où on t'entendra dire je te trouve très féministe, ouais. je te trouve très féministe. Mais en gros, je sais pas, je trouve que voilà, ce qu'on peut se faire de la, bah, de la définition de ce que c'est, de toute manière, c'est déjà des discussions qui peuvent être potentiellement assez longues, mais je crois beaucoup. Enfin, j'ai une grande admiration pour les femmes qui passent s'émancipent de leur statut de femme, mais en gros, voient. D'abord, dans le fait d'être féministe, le fait d'être une femme libre et de pouvoir mener son existence comme elle l'entend, sans que justement son sexe soit une barrière ou un frein, à pouvoir choisir, faire ses choix librement, agir librement. Et du coup, et puis surtout, je connais beaucoup de femmes fortes qui m'ont inspiré. Et je trouve qu'à l'écran, on fait souvent des femmes, des êtres que délicats, ouais, qu'il faut protéger, souvent de manière assez paternaliste, parce que c'est souvent un homme qui vient et qui leur donne le bout d'âme, qui les sauve, tu vois. Ouais. Et donc, non, moi, je connais essentiellement des femmes qui suffisent à elles-mêmes, qui n'ont pas besoin des hommes et qui choisissent la compagnie des hommes quand elles en ont envie. Donc, j'essaie de mettre à l'écran. Et puis, globalement, que ce soit pour les hommes ou les femmes, je suis intéressé par les personnages de caractère, etc. Ouais. Et pour porter un storytelling sur Narvalo, celui qui raconte l'histoire, pour tenir un auditoire sur 10 minutes sur une anecdote, ça demande franchement d'avoir un fond de personnalité assez solide ou quelque chose de qui envoie un peu, quoi.
Oui, il faut du charisme. Et il y a un épisode sur le couple, et c'est le mec qui merde. C'est sur le couple, sur l'épisode sur l'aéroport. Elle a toute la charge mentale. Moi, peut-être cet épisode, c'est celui où j'étais le plus en mode « Vas-y, embrouille-le »
Elle l'embrouille quand même.
Moi, je l'aurais quitté, le mec.
Attends, Déborah, elle le fait quand même. Ça fait quand même avec l'épisode de la saison 1, ça fait 24 minutes où elle termine ça.
Moi, parfois, je suis radicale. Parfois, je suis tellement... Aurélie Aloncourt, notre attachée de presse commune, pourra témoigner. La dernière fois, je sais plus, il y a un mec qui a fait une grosse connerie. Je n'entrerai pas dans le détail, mais juste, il ne s'est pas excusé. Et j'étais avec Aurélie après. Et j'ai vraiment dit, je crois que je vais arrêter avec les hommes. Je pense qu'il faut tous les punir collectivement. Je suis désolée, il y aura des balles perdues.
Non, t'inquiète, tu peux.
Mais je pense qu'il faudrait peut-être, à mon avis, peut-être que pendant un an, on refuse tout rapport sexuel pour que, vous sentiez.
Pour que le rapport de force se rééquilibre.
Ouais, et que, en fait, que les mecs bien disent aux mecs relous, les gars, arrêtez, on a envie de baiser, s'il vous plaît.
Peut-être qu'il y a un moyen de pression, il y a un lobbying qui peut être très efficace.
Je sais pas.
Mais j'ai l'impression que vous avez du mal à vous accorder sur une ligne politique commune.
Non, je te jure, putain, c'est clair.
Parce qu'en vrai, j'ai toujours dit, vous n'allez pas au travail demain, toutes les femmes.
C'est
la grève du travail des femmes, elle réglerait beaucoup de problèmes en 5 jours. Parce que ce pays ne tourne pas sans vous. J'imagine que vous en avez pris conscience.
Oui, mais les femmes se haïssent entre elles.
Ça m'a pas échappé.
Comme les juifs d'ailleurs. Ils parlent ensemble, ils s'engueulent toutes les 2 minutes.
Il y a beaucoup de communautés.
Oui, c'est vraiment le racisme entre juifs et les femmes, c'est terrible. Moi, il y a justement un truc que je sais pas si j'essaye de le faire remarquer à mon copain, c'est la misogynie intériorisée de certaines nanas, peut-être d'une autre génération, genre 50, 60, qui peuvent être odieuses avec les femmes et hyper séductrices avec vous. Et résultat, si on rencontre une nana de ce type, après, il va me faire « Oh, elle était cool !» Et je fais « Tu rigoles ?» elle est odieuse. Il me fait « Oh, moi, elle était cool !» Et je suis en mode « Oui, mais là, j'ai besoin.
» J'ai besoin que tu me crois qu'elle n'a pas la même posture quand elle parle avec moi.
Ouais, et en fait, c'est bizarre. Autant parfois, maintenant, limite, parfois, il a plus de facilité à me croire quand je dis « Putain, il m'a pas parlé comme au mec, là. Oh, tous des bâtards. » Et quand je lui dis « Cette meuf non plus, elle m'a pas parlé pareil. » Elle m'a dit « Ouais, mais elle était super sympa. » Je fais « Oui, parce qu'avec toi, elle t'a vraiment sucé la bite, tu vois. » Mais s'il te plaît, crois-moi, il y a aussi des femmes qui haïssent les jeunes femmes. C'est ouf, quoi.
Ah ouais, complètement. Et puis en plus, il y a eu un truc, vu que il y a eu un peu une reconstruction, un remodelage du féminisme, de l'engagement féministe ces dernières années. Il y a eu une frange un peu réactionnaire de vieilles féministes des années 60 qui ont à cœur de... Pas de vous apprendre le féminisme à votre génération, mais un
d'enlever
truc...
le voile.
Et puis même vis-à-vis des nouvelles féministes, de dire c'est pas ça le féminisme aussi. Tu sais, on peut être femme et être la séductrice, mais revendiquer des trucs qui sont bas de plafond, comme si ça devait faire partie intégrante, que tu puisses le faire.
La liberté de se faire harceler.
Ouais,
dans le 6e arrondissement.
Ce genre de bail. et je crois qu'elles ont un peu un truc de posture en fait. Elles prennent plaisir juste à s'opposer à un truc parce que vous les agacez et puis peut-être que pour certaines vous leur rappelez l'apogée de leur vie aussi.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot,
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Inconsciemment.
Vraiment, peut-être parfois, l'un des trucs j'avoue que j'admire le plus chez les meufs quand je les rencontre, c'est la capacité à aimer les autres femmes aussi, tu vois. Oui. C'est ce que c'est. En fait, c'est un travail qu'on t'était tellement formaté à te considérer comme rivale et à te haïr et à pas te filer des plans, te faire des passes, te faire des projets ensemble. Quand je vois une nana qui n'est pas comme ça, je me dis « Oh, waouh, génial, extraordinaire, tellement rare. »
Ouais, complètement. Et puis... Ouais, tellement rare d'avoir un peu des sororités spontanées
et
sincères et bienveillantes,
ouais,
je suis
d'accord.
Et large, surtout, parce que
oui.
la sororité, les gens, ils placent ça juste sur un sujet, alors que la sororité, c'est juste...
Ouais, enfin, et pas des sororités d'Instagram.
Oui, et pas de... Oui, complètement.
Ouais.
Parce que oui, c'est pas l'écrire ne suffit pas, il faut le...
Putain.
Écrire sororité ne suffit pas à l'être, hein. Il faut agir un peu, les amis.
Toi, tu t'es fâchée, genre justement, avec des amis, vous avez eu genre des divergences trop grandes, des gens qui seraient venus à ton spectacle et qui auraient fait « je te parle plus ».
Non, pas du tout, non. Il y a des Noirs qui me disent « c'est pas vrai, on devrait être au-dessus des Arabes dans la pyramide du racisme ».
Ah oui, 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 ça
des,
c'est...
Il y a des Pakistanais qui me disent « on n'est pas dans la pyramide du racisme ».
C'est vrai,
parce que je classe
c'est
les racistes à un moment donné dans mon spectacle.
Quand je dis qu'on avait peur, c'est à ce moment-là.
Oh, il y a de quoi, moi aussi j'ai eu peur quand je l'écrivais. C'est la partie sur la religion aussi, je dis « vraiment, je vais dire ça devant 300 personnes
».
J'étais pas sûr. Mais du coup, il faut le faire quand même. Non, des vraies embrouilles. On a eu plein de discussions véhémentes avec des amis. Ça a dû participer, mais sur le plan politique, non. Mais c'est pour ça aussi que j'ai du mal avec le public qui veut être en adhésion avec tout le discours d'un artiste. Parce que déjà, les artistes, on est là pour être bêtes. On est là pour questionner les lignes de la vérité et de l'engagement. On est là pour se tromper. Vous n'êtes pas du tout intransigeant avec les politiques et vous devenez intransigeant avec, avec les artistes. Alors que, bah voilà, c'est ce que je dis des fois à mon public. On me dit « Ah ouais, bah tu penses ça sur ce sujet ? Bah laisse tomber, je croyais que t'étais quelqu'un de bien. » Mais avec mes amis les plus proches, on n'est pas d'accord. Avec ma famille la plus proche, on n'est pas d'accord, que ce soit en ce moment ou à d'autres moments. Des fois, j'ai des conversations d'une heure avec ma mère où on est archi pas d'accord, mais on sait que on sait qu'on a tous les deux un fond de bienveillance et qu'on va se tirer chacun un peu vers l'autre, quoi. Mais du coup, non, moi j'ai un grand plaisir à ne pas être d'accord avec mes amis, tout ça pour dire ça.
J'ai l'impression que ta mère et ma mère, peut-être elles ont des points communs. Là, je suis très très soulagée parce que ma mère, c'est bon. La dernière fois que je l'ai eu au téléphone, elle a admis que Darmanin partait en couille. Et tu peux pas savoir.
Ça, c'est un point.
Mais merci Dieu, même si je crois pas en Dieu, mais genre j'attendais ça parce que elle est macroniste. Alors donc tu vois, donc c'est toi ta mère, elle est pas macroniste.
Non, elle est pas macroniste.
Ouais, okay. Te moque pas de moi, je vois ton regard.
Juste un sourire ironique, mais c'était plus de l'empathie. Hein? Ça aurait été encore plus de travail.
J'ai vu ton sourcil.
Ça aurait été un travail d'une autre dimension.
C'est du travail. Non, c'est du travail. Je te dis, alors que ma mère, à la base, t'as pas une meuf plus à gauche dans le social, engagée. Enfin, tu vois, elle a toujours été hyper politisée. Puis elle a bossé dans un lycée pro, à aider des jeunes, à trouver des stages en entreprise, à connaître toute leur vie, à répondre à leurs textos à minuit. Parce que, enfin, tu vois, elle est beaucoup plus, enfin, vraiment, en plus sincèrement. Mais elle est devenue macroniste, je pense, parce qu'elle est attirée sexuellement par Emmanuel Macron. Genre, vraiment, tu vois. C'est ce qui, pour moi, excuse la chose, c'est qu'elle le désire. Voilà. Donc,
et le désir peut être une excuse.
Et franchement, le désir aveugle, hein, tu vois. Si Angelina Jolie, elle se présentait, quoique.
Je crois qu'elle me rendrait pas d'extrême, je te jure. Hein.
Ah ouais, j'avoue, parce que Marion Maréchal, elle est fraîche et en même temps, on n'a pas non plus envie de voter FN.
Ouais, mais par contre, je pense qu'elle va ramener quelques électeurs de plus que sa tante grâce à son physique.
Ah ouais,
je suis assez convaincu de ça, malheureusement.
Bah oui, ça joue.
Ça joue, bien sûr que ça joue. Mais il y a des hypnoses, pour en revenir à ta mère, c'est qu'il y a des hypnoses, on sous-estime, mais il y a des hypnoses sociales qui se produisent sur le temps aussi. La propagande médiatique, je vous assure que c'est un truc qu'on sous-estime, parce que nous, en plus, maintenant, on a différents vecteurs d'information, mais sur la génération du dessus, pour qui la télé, c'est encore 85% de la nourriture intellectuelle, c'est un massacre ce que ça fait au cerveau, même des bienveillants, même des construits intellectuellement, parce que c'est un conditionnement inconscient. C'est les Arabes, par exemple, ça, quel que soit le cœur que tu aies, ça finit par rentrer dans ton cœur. Et sur le, il y a tellement de pas de contre-discours et on a tellement tiré vers le bas le débat politique, c'est-à-dire qu'en vrai Macron, quand tu le vois en débat avec les autres, c'est pas celui qui a l'air le plus abruti, hein, parce qu'on a tellement tiré vers le bas aussi.
C'est clair.
Donc et puis voilà, il a un truc d'efficacité rhétorique, sa communication est très bien huilée, il a deux générations de moins que les autres, donc ça doit aider, il a un peu plus de cardio aussi, tu vois, et une capacité d'adaptation à son époque très plus importante. Mais ça crée des, et les, pareil, et les, et les épouvantails qu'on brandit tout le temps, quoi, de dire de vouloir faire croire que l'extrême gauche est potentiellement plus dangereuse que l'extrême droite. Bon, moi, on n'a vraiment pas dû suivre les mêmes cours d'histoire. Mais je veux dire, il y a beaucoup de trucs dont on sous-estime l'impact médiatique, particulièrement sur les cerveaux des gens qui utilisent essentiellement la télévision pour s'informer, quoi. C'est-à-dire que BFM, depuis CNews, BFM paraît centriste, hein. Faut se rendre compte de ce que c'est. Et
c'est
BFM
clair.
N'est pas moins d'extrême droite qu'il y a 10 ans. C'est
mais
juste
moi,
que là,
j'en
on a créé une extrême droite de l'extrême droite. Hein.
Oui, sauf que l'extrême droite, ils sont cons et populistes. Donc en fait, c'est l'extrême droite. J'en veux à l'extrême gauche parfois quand ils sont cons et populistes. Tu vois, je me dis justement, pour moi, la gauche, c'est le débat intellectuel, c'est
non,
le fait de ne pas être d'accord. C'est, on ne peut pas sombrer dans du dogmatisme. C'est pour ça que.
Non, je suis d'accord.
Et Raphaël Glucksmann est très beau.
On allait revenir à Raphaël.
Parce qu'on a pris un verre après avoir
j'ai
vu ton spectacle.
J'ai vu, tu l'avais rencontré il n'y a pas longtemps.
Ouais, t'as vu voilà. Bah, oh mon Dieu, il m'a fait les yeux doux. Hein. Ouais. J'essaie de l'avoir dans le podcast. Mais je le trouve intelligent. Mais je pense qu'ensuite, il renvoie un truc qui est trop minet pour représenter... tu vois.
Je sais pas, il fait moins miné que notre président.
Hein. Ouais, grave. Mais en plus, moi je trouve, je trouve super. Peut-être en fait, il y a un fossé entre lui et Ruffin. Il faudrait trouver un gars entre les deux. Ruffin, c'est vraiment trop rural. Glucksmann, c'est vraiment trop cinquième.
Ouais, après, je te cache pas que j'ai des petits bémols un peu plus poussés, moi, sur Glucksmann que sur Ruffin.
Parce que sa meuf, c'est Léa Salamé ?
Pas que, même si, à mon avis, ça ne raconte pas rien. Mais j'ai été dans des couples assez bizarres dans ma vie pour ne pas juger avec qui on se met en couple.
T'as déjà été avec des meufs de droite ?
Non, jamais. Mais je sais pas si c'est un hasard, mais je crois que c'est impossible. Très sincèrement, je crois que c'est impossible.
C'est même
pour moi.
Pas un petit fantasme.
Pas du tout. Ah non, mais moi, même coucher avec une keuf et tout, j'ai pas ce genre de fantasme.
Ah ouais.
Non, j'ai pas
et une bourge.
Tu peux être bourge et de gauche, mais à la base, par exemple, le bobo, la dernière fois, je parlais de ça avec je sais plus qui. Bobo, pour moi, c'est devenu péjoratif dans les 10 dernières années. À la base, pour moi, c'était les riches qui restaient de gauche.
Ouais.
Hein. C'était la définition qu'on se faisait du bobo jusqu'aux années 2000. Donc, moi, j'ai jamais rien eu contre les riches, parce que souvent, on associe le fait d'avoir une posture d'engagement de gauche au fait de haïr les riches, ce qui est complètement con. On a un problème avec les riches qui veulent être de plus en plus riches en donnant de moins en moins aux pauvres. À peu près de ma vision de la chose. Après, non, je me vois pas être. Non, je crois pas que je pourrais pas être quelqu'un de droite, je crois. Après, c'est pas, comme t'as dit, un coup de foudre.
Ouais.
Mais je crois.
Si elle est vraiment très belle.
Il y a déjà la chance d'avoir de très belles femmes de gauche aussi. Et puis, mais après, il faut voir moi ce que j'associe à la gauche, à la droite. Je connais il y a des gens dans ma vie qui sont étiquetés de droite politiquement, mais qui se comportent mille fois plus comme des gens de gauche dans la vie que des gens de gauche qui ont une posture gauchiste mais qui font rien pour les autres. Enfin, tout est complexe. Et moi, je suis pas. Ben, tu vois, je connais des gens qui votent à droite. Encore une fois, je les considère dans mon cœur. Ils sont plus à gauche que les gens de gauche. J'ai pas de.
Et comment ça se passe si Mathieu Longuet s'enrichit trop?
Ah bah moi j'ai aucun problème avec ça. Je veux pas rester pauvre, enfin déjà je viens de la classe moyenne, mais je veux pas rester pauvre par solidarité avec les gens. Et je crois que les bons gens de gauche n'attendent pas de toi que tu restes pauvre pour rester intègre. Et puis je trouve que c'est plus facile de prouver son intégrité quand on commence à gagner sa vie que quand on a rien. Donc non, moi j'ai pas de problème avec ça. Moi mon but c'était de pas travailler dans la vie, je voulais même pas être artiste, j'en avais rien à foutre. À partir de mes 20 ans, quand j'ai mis 2000 euros de côté, pour moi c'était juste un mois où personne me forcerait à travailler dans ma vie. Genre ce rapport à l'épargne, moi c'est 2000 euros de côté, c'est un mois où personne va me forcer à taffer. Donc j'espère un jour être sûr de ne plus jamais travailler de ma vie. J'aimerais bien avoir une vue sur la mer, tout ça. Non, j'ai des trucs peu matérialistes, mais j'aimerais bien construire une vie où j'ai plus besoin de personne. Et ça demande un peu de sous.
Je t'ai fait parler des meufs pour pas que tu critiques Raphaël Glucksmann. Je sais pas si t'as vu le détour.
J'ai complètement vu le détour, t'as vu, pour pas que je parle de son passé de conseiller en dictateur.
Je t'ai retendu la perche.
C'est gentil, comme ça on peut clôturer en disant après, sa fiche Wikipédia est pas mal. Assume.
C'est moi qui ai le pouvoir sur le montage.
C'est vrai, je te l'accorde aussi. Tu peux couper Raphaël.
Non, je laisserai. Et donc une vue sur la mer, ça serait ça ton ultime goal
Non, moi j'ai pas du. Moi mon ultime goal c'est vraiment de pas travailler. Et après j'ai pas d'ultime goal.
Mais c'est pas vrai.
Premier degré. Mais après écrire pour moi c'est pas travailler. Enfin là je considère que ce que je fais c'est pas travailler.
Tu dis la même chose que Guillaume Meurice.
Ça va, c'est quelqu'un de bien. Ça me dérange pas. Mais donc vraiment moi mon chemin de vie c'est d'essayer de tirer vers le plus de liberté possible et de me nourrir spirituellement etc. Donc ça passe beaucoup plus par Enfin, pour moi, il y a plein de manières d'échouer sa vie, quoi. Et du coup, c'est être tranquille, pouvoir être où je veux. J'adore être à la mer. Je réapprends beaucoup à me nourrir des choses gratuites. Je trouve qu'on désapprend beaucoup dans nos sociétés capitalistes aux gens à voir que la lune, elle est belle, à voir ce que ça vaut, un coucher de soleil. Enfin, tous les trucs gratuits.
Est-ce que c'est le titre du prochain album? La lune, elle est belle.
La lune, ça pourrait. Non, j'ai mieux normalement. Normalement, j'en ai des meilleurs. J'ai trouvé des meilleurs titres. Mais ouais, en gros, du coup, moi, une vie où je peux faire ce que je veux, où je peux être où je veux dans le monde, où je peux voyager avec potentiellement la personne que j'aime ou une famille. Si j'en ai créé une, mais de ne pas être obligé par cette société qui va être de plus en plus oppressante. J'aimerais bien qu'au bout d'un moment, si j'y participe, ce serait que par choix. C'est un moment dans ma vie auquel j'aimerais bien arriver. Ouais. C'est déjà un peu le cas, hein, je vais pas te mentir.
Ouais.
Dans le sens où je fais rien, je travaille que quand j'ai envie.
T'es super connu, mec. Hein. Je sais pas si tu t'en rends compte.
Non, je m'en rends pas compte.
Parce que moi, à chaque fois que je dis aux gens, ouais, dans le podcast, je vais recevoir Mathieu Longate. Et d'ailleurs, Longate ou Longate ?
Longate.
Longate. À la fin du podcast.
Ouais, mais il y a un petit swing sympa dans Longate. C'est pour ça que je te laisse ça. Une petite américanisation que je prends, après tout.
Oui, d'ailleurs, je crois que c'est quand je dis, ouais, je vais recevoir Mathieu Longate que les gens sont là. Longate ? C'est le début de la conversation. Et non, tout le monde te connaît. Hein. Genre, tout le... vraiment, je t'assure. Et pourtant, voilà, parfois, je dis d'autres noms d'invités, les gens sont là. Mais Longate, non, si, si.
Alors, je sais pas s'il y a tant de gens qui me connaissent, mais après, la classe 25, 40 ans, Paris, banlieue parisienne,
tout le monde
je suis pas mal identifié.
Ah bah ouais.
Et Narvalo commence à avoir
très
été beaucoup
connu.
Vu parce qu'il y a beaucoup de bouche à oreille et ça me fait trop plaisir sur la série. Les gens se le matent en fin de soirée quand ils rentrent de boîte avec un pote, ils disent, oh, je vais te mettre un épisode de Narvalo et du coup, ça crée une viralité des alcooliques, des fêtards.
Bon, alors attends, je passe au questionnaire de Proust. La qualité que tu préfères chez un homme ?
L'honnêteté.
La qualité que tu préfères chez une femme ?
L'honnêteté.
Le principal trait de ton caractère ?
La sincérité.
Ce que tu apprécies le plus chez tes amis ?
La sincérité.
Ton principal...
D'être drôle aussi, les amis, je peux leur rajouter d'être drôle.
Ouais.
Ça, il m'est arrivé même de traîner pas avec des gens méchants, mais des gens qui avaient potentiellement une moralité middle parce qu'ils faisaient trop rigoler. Ce serait malhonnête d'eux. Mais j'essaie d'arrêter parce que ça me mène toujours à des catastrophes. En vrai, les rares fois où j'écoute pas mon cœur, je paye.
J'adore moralité middle, mais drôle, c'est bon. Ce que tu apprécies le plus chez tes amis ? Donc l'humour
drôle.
Un peu de sincérité quand même.
Exactement.
T'as des amis mythos, genre comme le personnage...
J'ai plein d'amis mythos.
Ok.
Ouais, j'ai des amis mythos. Enfin, pas plein, mais j'ai des amis mythos.
Ouais.
Et plus ou moins de manière pathologique. Des gens, c'est une partie de leur personnalité, et d'autres pour qui, pour moi, c'est clairement un trait pathologique. Il faut se soigner.
Ouais,
mais c'est marrant, des fois.
Bah oui. Ton principal défaut ?
D'être trop dur, peut-être, des fois.
Ah.
D'être trop dur, ou de croire que... ou d'être pas du tout pédagogique. De croire qu'un message, s'il est vrai, la forme que tu lui donnes, c'est pas important, alors que ça, je pense, c'est plus ma typologie de personnalité, mais que c'est pas le cas pour tout le monde, et qu'en vrai, la forme que tu donnes à un propos, même s'il est vrai, elle a une importance.
L'argumentaire d'un gars qui largue par texto.
Non, pas du tout. Non, je suis pas du tout lâche, en plus. Mais Non, plus... non, dans le sens où je peux considérer que si je dis même si c'est dur, même si c'est un gros défaut, je considère que si je te le dis et que c'est vrai, tu vas le ressentir que c'est vrai, et du coup, pas peu importe la forme, mais peu importe. Et j'ai complètement tort là-dessus, et c'est un peu. Mais je travaille, mais c'est c'est pas prendre assez cas de la sensibilité des autres ou des émotions des autres ou des timings de vie dans lesquels ils sont. Donc c'est appréhender avec trop de manière trop expéditive la personne à qui t'envoie le message. Et voilà, tu peux de manière amener les choses de une vérité de manière bienveillante aura certainement plus d'impact sur la psyché de la personne et c'est ce que tu cherches quand tu essaies d'amener quelqu'un à une vérité. Donc voilà, là-dessus j'ai beaucoup de travail à faire sur la forme. Mais c'est parce que je suis animé, c'est parce que je m'excite, parce que pour moi, si c'est vrai, c'est vrai. Voilà, mais j'ai tort.
Ouais, la communication.
Oui, je peux beaucoup progresser sur la communication.
Comme tous les mecs. Hein.
Je sais pas de doute.
Ton occupation préférée ?
Mon occupation préférée, c'est plein de choses. Hein. Moi, j'ai des trucs très basiques, hein. Voir un coucher de soleil, voir une pleine lune, faire l'amour, lire... me baigner dans l'océan, faire du surf, pas mal de trucs de gogol, des trucs assez simples, bien manger, une soirée entre poteaux où on est ivre et on rigole en faisant n'importe quoi. J'ai pas mal d'occupations préférées. Il faut les varier de toute manière, parce que sinon, après, au bout d'un moment, c'est plus ton occupation préférée. Si.
Ouais.
Donc, voilà. Voyager, j'aime beaucoup voyager.
Ton idée du bonheur ?
Mon idée du bonheur, c'est la paix. Je crois plus trop au bonheur. Je crois que le bonheur, c'est comme... c'est comme la petite bulle sur les trucs quand tu veux mesurer, là, pour vérifier que ce soit plat, il faut juste faire en sorte au maximum de maintenir la bulle entre les deux traits, mais elle va toujours sortir, rentrer, ressortir. Dieu, il est taquin, et même quand tu es très équilibré dans ta vie et que tu as atteint des niveaux auxquels tu pensais pas arriver, il va toujours en général te mettre une baffe dans la gueule pour retester ta solidité. Donc moi, je crois beaucoup plus au fait que il faut travailler sur la manière qu'on a de recevoir et de percevoir les choses, et du coup, je crois plus trop au bonheur, mais je crois à la paix. Du coup, si je dois dire ma vision du bonheur, je pourrais te dire être heureux, entouré des miens, mais en vrai, c'est continuer à travailler, à atteindre plus de paix et à plus faire dépendre justement la joie et le bonheur de moi-même que des événements extérieurs qui continueront à m'arriver. C'est la nature humaine de ne pas être satisfait, de se lasser des choses, de voir ses problèmes en première ligne, quels qu'ils soient, même quand tu as réglé des problèmes existentiels que tu ne pensais pas régler dans ta vie, le problème que tu auras va te paraître important. Donc voilà, faut...
Tu crois en Dieu ?
Ouais, je crois qu'on peut dire je crois en Dieu, je crois en quelque chose, en tout cas j'ai pas de religion, mais moi je crois en quelque chose, mais c'est marrant parce que souvent la science, ça éloigne les gens de Dieu ou de la foi. Et moi, c'est la science qui m'a fait trouver la foi. C'est à cause des probas, parce que je fais une petite digression, mais j'ai toujours détesté les maths, je suis vraiment littéraire, j'étais nul en maths, enfin, il fallait que je travaille au moins autant que les autres pour m'en sortir. Mais il y a un truc qui m'a passionné, c'est les probas, parce que voilà, j'ai trouvé qu'il y avait une application très concrète et très utile dans la vie. Et en fait, c'est tout simplement, il m'est arrivé trop de probas impossibles dans ma vie. Il m'est arrivé trop de probabilités impossibles. Donc c'est scientifiquement, je dis scientifiquement, Dieu existe, parce que ça, mathématiquement, ça ne peut pas exister, plus ça, plus ça, plus ça, ce croisement, il ne peut pas exister. Et par l'expérience, par la vie, j'ai eu l'impression que plus je m'écoutais et plus j'essayais d'être sincère et d'agir sincèrement vis-à-vis de mes ressentis et de mes pensées, et plus l'univers s'alignait pour moi un petit peu. Tu vois, je vais te donner un exemple bête, mais il y en a 10 000 des exemples comme ça. Par exemple, je vais décider sur un coup de tête d'aller passer un week-end dans un appartement en Vendée en partant à 2 h du matin en voiture, et je vais arriver, il va y avoir un double arc-en-ciel alors que c'est une barre d'immeuble vide et il n'y a que moi qui suis en train de le voir. Des conneries comme ça, où les fois où je me bouscule pour m'écouter ou pour prendre des décisions qui me ressemblent, en général, il y a quelque chose qui vient me féliciter derrière. Et du coup, donc voilà, et ça m'aide beaucoup à avoir la paix, parce que du coup, dans les moments plus durs, tu sais aussi que c'est une question de temps, qu'il faut le digérer, qu'il faut avoir confiance. Et j'ai tendance à je t'ai dit avoir un truc un peu de physique quantique dans la spiritualité. Les gens, ils sont beaucoup vers le ciel, où est Dieu, etc. Et je crois qu'en plus, c'est écrit dans la plupart des livres saints, mais Dieu, il est en nous. Et du coup, si tu arrives à te sonder sincèrement et à agir en t'écoutant, je crois sincèrement que tous les enfants, ils le sentent quand ils font du mal avant d'être traumatisés, et que les adultes, ils baissent leur cerveau. La plupart des enfants sentent que ce que c'est quand ils font du mal, ils n'ont pas envie de le faire, ça leur fait du mal. Quand ils font du bien, ça leur fait du bien. Et du coup, je crois sincèrement au fait que voilà, que quand tu t'écoutes, tu te rapproches quelque part un petit peu de l'univers et qui te félicite un peu des fois.
Quel serait ton plus grand malheur ?
Quel serait mon plus grand malheur ? Je crois à la solitude. Parce que tu passes ta vie à essayer de t'élever, à te rendre libre, à pouvoir disposer de tes pensées, de tes mouvements. Mais je ne suis pas du tout l'autonomie humaine, moi. Si ça devait aboutir à de la solitude, que j'ai même acquis la paix éternelle, que je connaisse tous les domaines auxquels je voulais m'intéresser, si j'ai personne avec qui partager ça, c'est nul. Et c'est pareil, j'ai pas ce degré de poésie, quand je te dis les couchers de soleil, le truc, moi, un beau truc que je vis tout seul, instinctivement dans ma tête, je suis putain, avec qui j'aurais eu envie de vivre ça là. Et puis même, je trouve qu'il y a toujours une saveur de demi-souvenir quand tu peux pas les partager. C'est un peu dur à expliquer. Donc quelque part, je trouve que la solitude, et pourtant j'espère trouver plus de paix, être plus à l'aise avec ça, avec la solitude, parce que je pense que c'est aussi une liberté de prendre du plaisir à être avec soi-même, mais je sais que ce sera jamais sur une trop longue période. Moi j'ai trop besoin des autres, j'ai trop besoin de tendresse, d'affection, d'amour, d'échanger.
Donc, je pense que tu seras un bon papa.
C'est une très bonne question, je ne sais pas, j'irai pas jusque là.
Ah
mais,
ouais
mais je reviens de loin, moi, dans ma famille, à la base, ils parlent pas aux enfants jusqu'à 3 ans, tant que ça n'a pas un chiro, tant que ça n'a pas de cerveau, ils communiquaient pas avec toi. Donc je serais mieux que la génération
ouais,
de mon père, en tout
c'est
cas.
Sûr.
Mais je sais pas si je ferai un bon père. Mais
du coup, tu iras aux manifs avec tes enfants.
Sur la dernière fois, j'ai vu un truc trop mignon, mais c'était les manifs retraite. Et je vois un petit enfant de 4 ans avec son casque et le père avec son casque. Comme ça, je dis, c'est trop mignon pour la prod. En plus, c'était un spectateur de Bonjour Tristesse, comme 80% des manifestants de France. Et du coup, j'ai pris une photo avec eux. C'était trop mignon. C'était une mini manifestante. Et puis, ça se voyait qu'il faisait grave gaffe à elle.
Ouais.
Et tu dis, en gros, il lui a juste montré, voilà, ça, c'est les gens, ils veulent plus travailler. Du coup, ils font une manif. Allez, on y va. Et c'était trop mignon. Mais oui, pardon, pour revenir à ta question, ouais, la solitude, j'ai l'impression qu'elle peut venir gâcher ou du moins donner une saveur vraiment inachevée, même si tu parviens un peu à achever ton être, même si tu t'achèves vraiment, jamais vraiment, j'espère. Voilà.
Ouais. Et c'est dur parfois de rencontrer, quand on est artiste, des gens, c'est pas, surtout quand on est aussi un peu connu.
Ça vient biaiser plein de rapports, c'est chiant. Et puis je me sens vraiment encore plus seul. Par contre, je suis jamais quelqu'un qui force une compagnie. C'est-à-dire que moi, il y a des gens qui me font sentir beaucoup plus seul que
seul. Oui.
Vraiment, là, je parle, c'est parce que j'ai de la chance de connaître des gens géniaux et qui m'inspirent, avec qui j'ai du plaisir à passer du temps. J'ai eu la chance de rencontrer des femmes incroyables et de vivre de belles histoires. Mais en vrai, je préférerais être seul que le truc seul que mal accompagné. J'y souscris vraiment. Des gens, c'est plus que de la solitude, t'as envie de pas être là.
Ah ouais. Ah c'est vrai. Ah ouais, moi je suis comme toi. Ce que tu détestes par-dessus tout.
Ce que je déteste par-dessus tout. Ça peut être très large, c'est pas forcément un adjectif.
Vraiment, ouais, tout.
Ce que je déteste par-dessus tout, c'est le nombre de personnes qui traversent leur vie sans la questionner. C'est que je sais pas si on a des âmes, mais si on a des âmes, il y a vraiment des gens, leur âme à la fin de leur vie, elle reprend au même point. Nickel, rien graille, pas de rigolade, pas d'engagement, pas de
poésie,
pas de trucs. voilà, les gens sont pas assez animés, remettent pas en question assez la propagande capitaliste ou de notre époque. Tu vois, le meilleur exemple pour ça, pour moi, c'est le travail. Je suis un peu connu pour faire démissionner les gens en France, etc. Mais, mais je crois pas que, enfin, potentiellement, si j'avais pas été artiste, bah, je serais resté salarié. Mais je crois que, par exemple, 80% des Français traversent leur vie sans questionner l'idée de salariat. Donc le problème, c'est pas d'être salarié, c'est de traverser sa vie sans appréhender le fait que si tu peux monter une société, si tu peux avoir une bonne idée et t'es capable de le faire. Moi, le buraliste de mon quartier, c'est un énorme schlag. Sa femme a été sous médicaments, je sais même pas ce qu'elle prenait tellement elle était lente. Ils avaient jamais les bonnes cigarettes. Ils ont tenu 25 ans ce débit de tabac. Il est resté ouvert. J'ai jamais vu des gens aussi incompétents. Ils savaient pas compter sur leurs doigts. Donc voilà, je crois vraiment que. Et du coup, là, je prenais l'exemple du travail, mais. Bah voilà, on a une vie, c'est un temps imparti qui en plus est incertain et il faut essayer de nourrir son âme donc par les rencontres, par la connaissance, par des expériences. Et ça me rend trop triste, ouais, les gens à qui on met à disposition une vie et qui la traversent. Et de toute manière, tu sens leur énergie, tu vois, à un certain âge, tu sens les gens qui ont rien vécu, qui sont pas animés. Et à l'inverse, c'est les anciens ou les gens de 80 ans qui restent animés de quelque chose et tout. Ils ont une telle énergie.
Ouais, une telle jeunesse.
Ils ont un tel truc qui se maintient dans le. Je crois aussi, tu sais, au visage. Les visages, ils racontent beaucoup de choses. Souvent, les visages, ils sont les traits de caractère. Et du coup, voilà, tout ça pour dire, je pense qu'il faut questionner sa vie et questionner le temps qui nous est donné sur cette terre pour essayer de. Bah de se nourrir, que ce soit avec des expériences, avec du savoir et se questionner sur est-ce que je suis libre. Voilà, les gens, je trouve que travaillent pas assez à essayer d'accéder à une forme de liberté et questionnent pas assez les aliénations très brutales que leur impose la société, le travail, la famille parfois, la religion parfois, mais voilà, je pense qu'il faut se questionner.
C'est beau. J'ai cru que tu allais répondre Caroline Forest.
J'aurais pu. Non, c'était exagéré.
C'est un autre débat, oui. Comment aimerais-tu mourir? Pardon, je suis exposée de rire.
Mais ouais, t'inquiète, il n'y a pas de mal, je sens que ça t'apportera beaucoup de peine. Comment j'aimerais mourir?
Si.
En fait, je crois que j'aimerais mourir en faisant l'amour, mais je trouve ça trop traumatisant pour l'autre. Donc je crois que je vais dire le sommeil, dans mon sommeil. C'est horrible.
Mourir en faisant l'amour?
C'est horrible pour l'autre.
Si vous mourrez ensemble en faisant l'amour.
Ouais, c'est...
Mais il faut trouver la bonne position.
Trop bizarre.
En missionnaire, à la limite, c'est joli. Mourir ensemble en levrette, c'est un peu ridicule. Bien.
Mais déjà, mourir ensemble en faisant l'amour, ça peut pas marcher. Donc je dirais le sommeil.
Déjà, jouer ensemble, mais alors, c'est compliqué. Mais alors mourir ensemble.
Pour vraiment... Et puis t'as qu'une fois.
Ah ouais, ouais. Faut le faire, oui, là, tu peux pas te rattraper derrière. Il est mort, il est mort.
Donc dans le sommeil, je pense que c'est un bon compromis. Mourir dans son sommeil. Mais en même temps, même ça, c'est toujours triste pour quelqu'un de mourir. Donc ouais, dans le sommeil, je crois que c'est ce que je préférerais.
Et enfin, quel est ton état d'esprit actuel ?
Je suis fatigué actuellement par ce qui se passe dans notre société, par la manière dont tout régresse, alors que je trouvais qu'on était déjà très bas socialement et sociétalement. Je suis fatigué par l'efficacité avec laquelle la machine à propagande médiatique bouffe le cerveau des gens, à quel point, juste en imposant de la peur, quel que soit le sujet, mais c'est souvent les mêmes... On paralyse le cerveau des gens et on en fait ce qu'on veut, alors que c'est les mêmes mécanismes depuis 60 ans et je trouve ça affligeant et j'ai pas l'impression qu'on va vers le haut. Et après, étonnamment, je sens que j'ai un peu un ressouffle d'avoir envie d'avoir une parole politique publique qui m'avait un peu quitté ces derniers temps, notamment à cause du Covid, parce que je suis pas médecin, que vas-y, bref, je te passe les détails, mais ça a participé au fait que je fasse pas de bonjour tristesse depuis. Donc à la fois, ça me réanime d'un souffle parce que bah, je sais pas quand il y a... Il y a une zone que personne ne veut faire. Instinctivement, je vais m'y placer. Donc, je pense que je vais reparler un peu. Et ce souffle-là me plaît parce que ça fait longtemps, parce que ça m'a manqué et parce que j'ai besoin de tenir des propos publiquement. Et après, je sens que c'est une période de ma vie un peu particulière aussi parce que je sais que ce sas d'énergie-là que je vais avoir, être capable de refaire ça, ça ne sera pas éternel. Ça va durer un an ou deux. Donc, je pense que je vais beaucoup bosser là parce que le souffle, il est là, l'envie, il est là et je ne suis pas encore complètement découragé. Mais je sais aussi que j'ai mes petites émotions, tout ça, et j'ai mon petit moral. Et en vrai, ça m'atteint aussi, cette société et ce qu'elle fait aux gens. Du coup, je pense aussi qu'à un moment donné, là, dans les trois ans, je vais avoir besoin de repos. Ça sera que quelques semaines, quelques mois, mais ce ne sera pas éternel. Quoi. C'est vraiment fatigant de s'opposer aux avis des gens systématiquement, surtout politiquement, aux menaces de mort, aux gens qui voient que le bout de leur lorgnette, à des gens qui te traitent d'imbécile alors qu'ils sont au niveau 1 de degré de manipulation par les médias, que toi t'avais à 11 ans et demi et que t'arrives à le prendre sans mépris le mec et que lui par contre va t'opposer un mépris absolu alors que t'essaies d'avoir un propos un peu construit et bienveillant. Donc,
je sais que les gens te réclament des bonjours tristesse et je sais que ça serait intelligent, mais moi j'aurais peur pour toi et je pense j'aurais envie que tu fasses ton film surtout.
Ne
voudrais pas que ça te disperse de l'énergie de ça.
Non, et puis c'est des énergies très différentes, ça ne me prend pas du tout les mêmes souffles d'inspiration, la fiction et quand c'est vraiment ancré dans la politique, etc. Et surtout, moi, c'est aussi que je pense que au-delà du fait, c'est que ça me manque aussi. C'est-à-dire que ce que je vis à l'échelle de mon spectacle, de me dire putain, mais moi ça a été une thérapie mon spectacle. Enfin, ça a été bonjour tristesse déjà, parce que moi je parle, parce que au bout d'un moment j'ai l'impression que je suis tout seul en France. Et en fait, je me rends compte qu'on est des centaines de milliers à penser comme ça, juste que cette parole elle est complètement invisibilisée dans les médias. Et moi ça a été une thérapie de me dire putain, les frères, en fait on est des centaines de milliers, on peut lever des manifs ici, on est plein à pas se détester sans la couche de manipulation et de jeu sur la peur. La plupart d'entre nous, 90% d'entre nous, on peut échanger de manière bienveillante, quoi. Et là, j'ai plus que ma salle qui me fait encore complètement cet effet-là et qui me fait beaucoup de bien de voir. On est tous différents là, on rigole alors qu'on se fout de la gueule de tout le monde. Que t'as vu, il y a des blagues, c'est quand même trash sur quasi tous les sujets.
Grave.
Et que ça rentre et de voir ce que ça fait aux gens. Du coup, en vrai, je le présente comme si c'était moi qui allais, tu sais, m'a faire un don de je me remets à avoir une parole publique alors que c'est beaucoup pour me soigner aussi. Moi, l'art, c'est beaucoup pour m'éviter d'aller voir le psy. Et là, la situation politique, elle me fatigue trop.
Les deux sont conciliables.
Tout à fait conciliable. Mais est-ce que ça vient pas manger un peu d'inspi? Parce que moi j'ai toujours dit, mais là je vais le faire cette année, donc ça se trouve, j'ai toujours dit, moi j'irai pas voir de psy avant d'avoir sorti l'album, parce que je vais raconter
là,
quoi.
Là l'album il va sortir.
C'est bon.
Donc tu peux aller voir.
Je vais le faire peut-être. Peut-être, je suis pas sûr d'être prêt, mais je le ferai un jour.
Oh, merci Mathieu.
Non, merci à toi, merci pour la bienveillance, c'était chouette.
Et voilà, c'était Mathieu Longat. Je vous invite à écouter le son qu'il a partagé récemment sur toutes les plateformes de streaming, comme un banquier. À regarder sa série Narvalo sur Canal et à ne surtout pas manquer son spectacle État des Gueux au République. À un moment dans l'épisode, je dis que je suis partie au Maroc. C'était le week-end du 14 octobre, il y a 2 semaines, pour le mariage de mon frère par alliance. Je sais plus si je vous en ai parlé. Tout se mélange un peu dans ma tête. Avec les 2 chroniques par semaine, j'étais off de Zoom Zoom Z mardi dernier. Je reviens ce mardi le 31 et je serai off de Quotidien jeudi prochain le 2. Vous pouvez retrouver sur mon compte Insta, en cross-post avec le leur, ma dernière chronique sur le chantier absurde de l'A69. N'hésitez pas vraiment à mettre un petit commentaire car il y a un nombre fou de haters et même si je fais tout pour que ça m'atteigne le moins possible, ça joue quand même sur mon moral et sur ma confiance en moi. Donc allez-y. Je tombe dessus dès que j'allume l'application. Même si j'y vais pour voir mes messages ou faire une story, je tombe dessus. Quand je suis revenue du Maroc, j'ai de nouveau eu une grave crise de vertige à cause des cristaux dans mes oreilles. J'avais plus du tout de force dans ma tête, je tombais par terre, j'ai un peu vomi. C'était assez impressionnant quand même pour M. Ils ont dû me mettre dans un fauteuil roulant, ça a pris des plombes à l'aéroport. Et j'ai eu une migraine le lundi de l'atelier. J'avais travaillé le matin sur ma chronique pour Quotidien sans manger. Et j'ai fait de l'hypoglycémie quoi, ou du stress. On a dû appeler SOS médecin au théâtre. Le mec est venu, il m'a fait une piqûre d'acupan dans le cul. Il m'a prescrit des antidouleurs. Faut que j'en achète. Faut que je prenne de la lamaline en suppos et plus en comprimé. Faut que je rachète tout ça. Le jeudi, justement, avant Quotidien, jeudi dernier, j'ai eu un sentiment d'évanouissement. Le midi, j'ai revu un peu des étoiles. Et le soir, en rentrant, j'ai oublié mon ordinateur dans le taxi. J'ai pu le récupérer de justesse le vendredi matin, juste avant de partir en tournée. Donc je suis très fatiguée, mais là je pars. Je pars avec M en Bretagne, mardi. Et voilà, en sortant de Radio France, il vient me chercher en voiture. Je voulais vous remercier parce que vous êtes très nombreux à être venus me voir au théâtre de l'atelier. C'était une soirée magnifique, vraiment. En fait, je suis très pudique avec le bonheur et j'ai un petit peu peur du succès, j'y crois pas. J'arrivais pas à croire que cette date était complète, qu'on avait vendu 560 places. Pour moi, c'était totalement irréel. Juste avant que je fasse mon entrée, j'ai entendu le public applaudir pour me réclamer et j'arrivais pas à me dire c'est pour moi qu'ils applaudissent, c'est moi qu'ils attendent. J'avais écrit de nouvelles blagues spécialement pour cette date et c'était une grosse prise de risque en fait. Je sais pas pourquoi je m'inflige ça. Je me suis réveillée dans la nuit après l'atelier vers 5h et j'avais une voix intérieure qui me disait les nouvelles blagues étaient pas à la hauteur, Rosa, les nouvelles blagues étaient pas à la hauteur. Et puis quand t'es rentrée, parce qu'à un moment je rentre et je traverse le public et je traverse les spectateurs et en fait il y avait pas beaucoup d'espace entre les sièges, donc j'ai perdu un chausson, c'était... Et je crois pas que les gens ont remarqué, il y a plein de gens qui m'ont félicité le lendemain, mais je voyais que le négatif, parce qu'à un moment mon micro s'est éteint et j'ai tenté de le rallumer en vain, on m'a donné un spare et en fait j'avais pas de retour, j'entendais mal et ça a faussé mes sensations, voilà, ça, c'est la difficulté du one shot en fait, j'arrivais pas à me faire aux lumières juste à un moment, j'ai quand même interrompu le spectacle pour demander à Adrienne, c'est bien ça les lumières qu'on a réglées, c'est bien ça, voilà, bon, je crois que je préfère faire des résidences de quelques jours dans des théâtres plutôt qu'une exceptionnelle. C'est très dur un one shot. Voilà, là je suis rassurée d'avoir 6 dates à la Nouvelle Ève. Ça me laisse le temps de prendre mes marques. J'aime avoir des habitudes. Voilà, j'ai pas reçu ma nouvelle batterie de vélo électrique, mais par contre je me suis faite au métro. Voilà, c'est quand même mieux quand il pleut. En fait, quand j'ai réalisé que j'avais oublié mon ordinateur dans le taxi jeudi dernier, j'ai eu une pensée. Je me suis dit,
je fais trop. En fait, il faut que je sacrifie un truc, il faut que j'arrête le podcast. Mais je suis heureuse de continuer, parce que c'est qu'à moi. En fait, il y a plein d'humoristes qui font des chroniques d'humour sur France Inter, il y a plein de gens qui passent dans Quotidien. Alors oui, il y a plein d'autres podcasts, mais il n'y a qu'un seul Les Mecs que je veux ken, et ça, c'est à moi. Et j'ai peur de personne en le faisant, et je réponds à aucune autorité sauf à la mienne. Parfois, j'ai peur d'être un peu intense pour mon entourage. Elle me dit qu'avec moi, il ne s'ennuie jamais et que chaque nouvelle journée est une aventure. Il est patient. Quand j'ai de grandes angoisses, il sait qu'ensuite ça va retomber, que ce sont un peu comme des marées. Et je suis très à l'aise avec lui. Adrienne, ma metteur en scène et meilleure amie, m'a accompagnée en tournée vendredi à Cournon d'Auvergne. Et c'était bien d'avoir du temps ensemble. On a beaucoup parlé politique, du conflit, j'ai pleuré. Elle avait les bons mots. Ça se passe bien avec mon équipe autour du spectacle, avec Alex, Elsa, Élise, Aurélia, mais parfois je culpabilise. J'ai envoyé un message mercredi à 20h sur le groupe WhatsApp en me plaignant parce que le micro se perd de l'atelier. Et ben, y avait un bout de gaffeur blanc, c'était pas le micro principal et c'est celui que j'ai utilisé donc tout le spectacle. Et c'était moche et j'ai écrit « faudrait pas que ça se reproduise quand même ». Et en fait, j'ai immédiatement culpabilisé parce que c'est un perfectionnisme qui tourne à l'obsession maniaque et qui me rend dure, voilà, avec les autres et avec moi-même. C'est une énergie qui me nourrit et qui me pousse, mais que je dois tempérer. Voilà, j'ai parfois l'impression d'être une petite fille sur un immense dragon, d'être la petite fille et l'immense dragon bleu fumant. Heureusement que M est là, avec sa douceur. Et heureusement que vous continuez aussi à être là, mes chers auditeurs et auditrices. Je vous embrasse.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vous avez aimé cet épisode? N'hésitez pas à le dire en faisant une petite story, en taguant mon compte et celui du podcast @lesmecsquejeveuxken sur Insta. Vous pouvez également soutenir mon travail en venant voir mon spectacle, en lisant mon livre et en commentant sur YouTube les replays vidéo de mes chroniques sur France Inter. Je suis tous les mardis dans Zoom Zoom Zen. Merci, bisous.